Deutsche Welle, Info, Matin.
Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans la matinale Afrique de la Radio Internationale d'Allemagne. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information en compagnie de Kossi Vitiasu. Bonjour.
Bonjour Bob Barry. Bonjour à toutes et à tous. C'est journée de mobilisation du mouvement Lucha en République démocratique du Congo. Le mouvement citoyen pour la lutte pour le changement appelle les Congolais à manifester dans plusieurs villes du pays pour exiger l'organisation des élections fin 2017.
Nous sommes fatigués des mensonges manipulés. Le pays, il est maintenant aujourd'hui dans une période extra-constitutionnelle différente aux autres années.
Et juste à côté de la République démocratique du Congo, les Rwandais se préparent à aller aux urnes le 4 août prochain. Portrait dans cette édition de Diane Shima Rwigara, dont la candidature à la présidentielle a été refusée.
Les Sénégalais dans l'attente des résultats des élections législatives d'hier.
Info Matin, c'est aussi le sport avec Ali Farad. Bonjour Ali.
Bonjour à toutes et à tous. Fantastique finale du Sénégal qui a raflé un nombre important de médailles ce week-end à Abidjan, notamment lutte africaine, et ce dans le cadre des 8e Jeux de la Francophonie qui se sont achevés hier soir. Par ailleurs, en athlétisme, le légendaire coureur britannique Mo Farah a décidé de repousser la date de sa retraite, désormais fixée au 24 août prochain.
Juste avant le sport, vous retrouverez un extrait de votre magazine Droits et Libertés. Vous êtes prêts, nous aussi. Mais avant le développement de tous ces titres, c'est d'abord votre flash info, Kossi Vitiasu. Les États-Unis et le Japon inquiets de la menace sérieuse et grandissante que représente la Corée du Nord.
Lors d'un entretien téléphonique, le président américain Donald Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe se sont accordés sur le fait que la Corée du Nord représente une menace directe et sérieuse et grandissante, notamment pour les États-Unis, le Japon, la Corée du Nord, c'est-à-dire la République de Corée, c'est-à-dire la Corée du Sud. Les deux dirigeants se sont engagés à accroître la pression économique et diplomatique sur Pyongyang et à convaincre d'autres pays d'en faire de même. La Corée du Nord a attiré vendredi dernier un engin intercontinental capable d'atteindre le territoire américain selon les dirigeants nord-coréens. Les États-Unis de leur côté ont testé avec succès l'interception d'un missile balistique à portée intermédiaire.
Le personnel diplomatique des États-Unis en Russie devra être réduit de 755 personnes.
C'est ce qu'a annoncé hier le président russe Vladimir Poutine après l'adoption cette semaine de nouvelles sanctions par Washington contre Moscou. Une telle réduction revient à ramener le personnel des représentations diplomatiques américaines au même niveau que celui du personnel des représentations russes aux États-Unis selon la diplomatie russe. Le Sénat américain a adopté jeudi dernier des sanctions pour punir la Russie de son ingérence présumée dans l'élection présidentielle aux États-Unis.
L'opposition vénézuélienne toujours mobilisée contre l'Assemblée constituante au lendemain du vote.
Le Venezuela a connu une nouvelle vague de violence qui a entaché l'élection d'une Assemblée constituante voulue par le président Nicolas Maduro mais contestée par l'opposition. L'opposition a appelé à de nouvelles marches dès ce lundi. Les affrontements d'hier ont fait 10 morts. Le président Maduro s'est félicité du fort taux de participation à ce scrutin hier. Le moment d'une nouvelle histoire est arrivée, a-t-il salué. La participation a atteint 41,5%, soit plus de 8 millions de Vénézuéliens, selon le Conseil national électoral.
Échange de corps de combattants après une trêve à la frontière libano-syrienne.
Le mouvement libanais Hezbollah et des djihadistes ont échangé des corps de combattants. Première phase d'un cessez-le-feu conclu après une semaine d'affrontements à la frontière libano-syrienne. Selon l'accord, les corps des combattants djihadistes doivent être transféré vers la province syrienne d'Idleb, dans le nord-ouest du pays, dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda et l'une des dernières à échapper totalement au régime d'Assad. Sur place en Syrie, la localité d'Al-Nashabiyeh, assiégée par le régime syrien à l'est de Damas, a reçu hier de l'aide de l'ONU pour la première fois depuis 5 ans. La localité se situe dans la Ghouta orientale, région rebelle assiégée.
Enfin, la ministre allemande gouvernement de la défense Ursula von der Leyen est attendu aujourd'hui même au Niger.
Hier déjà, il était au Mali dans le cadre d'une tournée dans le Sahel. Ursula von der Leyen était en visite à Gao dans le nord-est du Mali où plus de 800 000 soldats de l'armée allemande sont stationnés. À Gao, elle a salué l'engagement des militaires allemands dans le cadre de la mission multidimensionnelle de l'ONU pour la stabilisation du Mali. Mercredi, deux casques bleus allemands sont morts dans le crash accidentel de leur hélicoptère dans le nord du pays. La ministre allemande effectuera une partie de sa tournée conjointement avec son homologue française, Florence Parly.
Il est 7h05 en temps universel. Nous ouvrons cette seconde partie du journal avec la République démocratique du Congo où plusieurs manifestations sont prévues ce lundi dans les principales villes du pays. Ces rassemblements organisés à l'initiative de l'organisation La Lucha, qui signifie lutte pour le changement, devraient rassembler Kossi Vitiesu, plusieurs autres organisations de la société civile ainsi que des acteurs politiques qui devraient aussi prendre part à cette marche. L'opposant Moïse Katumbi, absent du pays, appelle également ses militaires à se joindre au mouvement citoyen qui exige le départ du président Joseph Kabila et l'organisation d'élections fin 2017.
Les organisateurs de la manifestation exigent par ailleurs de la CENIT, c'est-à-dire la commission électorale, la publication d'un calendrier électoral tenant compte du délai de décembre 2017. De son côté, la commission électorale nationale affirme que l'enregistrement des électeurs se poursuit et appelle à la patience. Mais cet appel à la patience semble n'avoir pas été vraiment suivi. Fiak Ndaira Guigé.
En effet, la date du 31 juillet pour la publication des fichiers électoraux fait partie des clauses clés de l'accord de la Saint-Sylvestre afin de permettre le déroulement des élections d'ici la fin de l'année. 7 mois après, les organisations de la société civile et acteurs politiques de l'opposition se mobilisent dans les rues pour faire pression sur la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Ghislaine Mouiwa, porte-parole de la Lucha, la lutte pour le changement.
Il n'y a rien qui indique qu'il y aura un fichier électoral disponible. Et la deuxième chose, c'est d'exiger à la CENI, pendant ces mois d'août que nous commençons, il faut qu'on ait un calendrier réaliste qui fixe les élections pour la fin de cette année.
De son côté, la commission électorale explique son retard par des raisons techniques. Selon Jean-Pierre Kalamba, le porte-parole de la CENI, la commission a perdu beaucoup de temps dans les discussions politiques du mois de février. Autre facteur, les combats contre la milice de Kamuina-Nsapu dans le Kasaï ont freiné l'enregistrement des électeurs. En dépit de cela, Jean-Pierre Kalamba estime que 89% des électeurs sont déjà enregistrés.
Nous ne pouvons pas publier un fichier électoral, la loi identifiant dit le fichier de la République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas le publier sans les électeurs du Kasaï, ça ne sera pas un fichier de la République démocratique du Congo, ça sera un fichier partiel.
Mais les justifications avancées par la CENI ne satisfont pas les initiateurs de la marche qui se déroule aujourd'hui. Ghislaine Mouiwa, porte-parole de la Lucha, pense qu'il s'agit de manœuvres visant à retarder davantage le processus.
Nous sommes fatigués de ces arts de mensonges et manipulations. Le pays, il est maintenant aujourd'hui dans une période extra-constitutionnelle. Nous devons maintenant commencer à agir davantage. Maintenant, le contexte il est très différent par rapport aux autres années.
Cette mobilisation nous fait couvrir une série d'actions prévues afin d'exiger ce que le porte-parole de la Lucha qualifie d'un retour à l'ordre constitutionnel. L'Église catholique a dernièrement, elle aussi, appelé le peuple congolais à prendre son destin en main. Le pays va mal, a indiqué le récent communiqué des évêques catholiques en RDC.
Fiacre Ndaira Guigé, puis l'opposition congolaise a prévu une grève nationale le 8 août prochain et des rassemblements le 20 août pour pousser le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 à quitter son poste et à permettre la tenue d'élections. Nous suivrons évidemment le développement de la situation en République démocratique du Congo. La Lucha appelle à manifester ce lundi sur toute l'étendue du territoire. Et dans notre édition spéciale à 17h, temps universel, Kossi Vitiesu, nous dresserons le portrait de l'activiste congolais. Congolaise Passy Mubalama.
Une édition spéciale est prévue ce lundi consacrée à la Journée internationale de la femme africaine. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce thème dans cette édition juste avant de retrouver Mireille Drone dans votre rubrique « À vous la parole ».
Et comme une femme peut en cacher une autre au Rwanda, deux femmes osent défier le président Paul Kagame, Diane Shima Rwigara, dont la candidature à la présidentielle du 4 août, je le disais, a été refusée, et Victoire Ingabire, qui est en prison depuis 2010. Elles, les deux femmes donc opposantes, elles sont les plus emblématiques du président rwandais.
Diane Shima Rwigara a créé son propre mouvement politique et c'est bien ce qu'elle risque en s'opposant ouvertement au président Paul Kagame. Notre correspondant à Kigali, Étienne Gatanazi, l'a rencontré.
C'est à Nyamirambo, l'un des quartiers les plus populaires de Kigali, que se tiennent désormais les assises du mouvement pour le salut du peuple, créé il y a une semaine par Diane Shima Rwigara. Cette jeune femme de 35 ans est résolue à se battre contre le régime du président rwandais Paul Kagame. En juin dernier, quand sa candidature à la présidentielle est rejetée, Diane Rwigara laisse entendre que les raisons avancées par la commission électorale ne sont qu'une machination politique. Selon la commission, la jeune candidate aurait même présenté des signatures de recommandations de personnes décédées, ce qui aurait justifié sa disqualification. Mais Diane Rwigara y voit la main du régime en place.
Ils ont peur de moi, ils ont peur de la vérité, parce que le système du FPR est bâti sur, est fondé sur le mensonge. Donc ils ont peur de quiconque ose dire la vérité, parce que tout simplement, ils ne veulent pas être exposés.
Cette lutte commence en février 2015 après la mort de son père, le millionnaire Assinapol Rwigara, dont les circonstances de la disparition ont été assimilées à un assassinat politique par sa famille, tandis que la police concluait à un accident de la route. Si sa candidature à la présidentielle a été rejetée, la jeune politicienne n'a pas jeté l'éponge. Des déclarations dans les médias dénonçant ce qu'elle appelle « régime autocrate » n'ont pas cessé de fuser. Ensuite, la création du MSP, Mouvement pour le salut du peuple.
Vous n'avez pas peur que le pire vous arrive, la prison par exemple?
Tout peut arriver et je suis prête à affronter quoi que ce soit, mais je sais aussi que je fais partie d'une juste cause. C'est notre mouvement est un mouvement de paix, on lutte pour nos droits. On se bat contre l'injustice dans ce pays et on réclame notre droit fondamental à la liberté d'expression.
La prison, car une autre opposante, Ingabire Victoire, est aujourd'hui derrière les barreaux. Fondatrice du parti FDU Inyingi, celle-ci tente en 2010 de faire face au président Paul Kagame lors de la présidentielle que ce dernier a remportée sans opposition. Partant des Pays-Bas où elle vivait avec sa famille, Ingabire Victoire prend le chemin de Kigali. À sa visite au mémorial du génocide des Tutsis, elle déclare aux médias locaux que le pouvoir de Kigali ne donne pas de valeur aux Hutus tués pendant ce qu'elle a qualifié de double génocide. Étienne Gatanazi à Kigali pour la Deutsche Welle.
Le Rwanda ou le parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais FPR, contrôle d'une main de fer depuis 20 ans. Là, toute la sphère politique du pays l'est aussi accusée de phagocyter l'économie via son bras financier, le fonds d'investissement Crystal Venture, premier employeur privé du pays dont les actifs sont estimés à quelque 500 millions de dollars. Le fonds d'investissement est présent dans presque tous les secteurs de l'économie.
En plus bref, les islamistes somaliens d'Al-Shabaab affirment avoir tué hier 39 soldats appartenant à la force de l'Union africaine, AMISOM, au cours d'une embuscade dans le sud du pays. Mais les affirmations d'un porte-parole des islamistes qui ont fait allégeance à Al-Qaïda n'ont pu être vérifiées.
En tout cas, des résidents de la région ont cependant confirmé à un journaliste de l'agence France Presse que des combats avaient eu lieu dimanche, donc hier, dans la région de la Basse-Shabaab, où les Chebabs affirment avoir tendu cette embuscade.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Vous écoutez la Deutsche Welle, il est 7h14 en temps universel et à Dakar, les Sénégalais élisaient hier leurs députés lors d'un scrutin test à 18 mois de la présidentielle. Des élections législatives perturbées par les soupçons de l'opposition envers le chef de l'État Macky Sall. Les bureaux de vote devraient ouvrir à 8h, mais dans beaucoup de centres, ça n'a pas été le cas.
Président absent dans des bureaux de vote, mise en place tardive du matériel électoral. Résultat, le vote n'a pas démarré à l'heure prévue partout. L'opposition se dit scandalisée. Pour le pouvoir, ce sont de mauvais perdants. L'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, accuse le président Macky Sall de saboter les élections. Retour sur une journée électorale avec notre correspondant à Dakar, Mamadou Lamine Ba.
Après une campagne électorale mouvementée, les Sénégalais ont voté ce dimanche. Mais dans beaucoup de centres électoraux, les bureaux ont ouvert avec une, deux et même plusieurs heures de retard. Au centre de vote Serigne Fallou Mbacké, l'opposition a noté des manquements. Mamadou Lamine Diallo, candidat, a voté ici.
Beaucoup de bureaux ont démarré avec du retard. Enfin, souvent, il n'y avait pas de président de bureau de vote, des assesseurs. Vous avez également un manque de bulletins, donc beaucoup de dysfonctionnements. Ensuite, sur le plan beaucoup plus technique, les listes ne sont pas affichées devant les bureaux de vote.
Au centre de vote Elimagnan du Sacré-Cœur, certains électeurs n'ont pas voté. Une crainte pour Aliou Ntall, représentant de la coalition dirigée par Khalifa Sall.
Nous avons des inquiétudes par rapport à la sincérité du scrutin. Parce qu'on ne peut pas comprendre en fait qu'il y ait des gens régulièrement inscrits sur les listes et qu'ils viennent pour voter. Une fois dans le bureau de vote, on leur dit que leur nom ne figure pas sur la liste. Alors ils ont déjà leur carte biométrique par devant eux.
Abdoulaye Wade a voté à l'école franco-arabe du point E. Face à la presse, il a déploré des insuffisances dans l'organisation.
Mes bulletins n'existent pas ou existent insuffisamment. Mais le plus grave, c'est que dans une circonscription comme Touba, qui est l'une des plus grandes villes creusées d'électeurs dans le Sénégal, mes bulletins n'existent pas dans les bureaux de vote.
Jean-Paul Diaz, candidat, met en garde le pouvoir contre toute tentative de fraude.
Je souhaite que le pouvoir se comporte normalement et ne fasse pas de transfert d'électeurs. Que les choses se passent normalement, que le gouvernement respecte les Sénégalais et les électeurs, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème.
Pour Pape Maël Diop, partisan de Macky Sall, l'opposition crie au scandale parce qu'elle est dans une mauvaise posture.
Ceux qui sentent venir la défaite sont en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il n'y a pas eu de car en provenance de Yemboul ou ailleurs. C'est des gens de notre commune qui sont en train de voter et ça se passe dans le calme et la sérénité.
Le taux de participation était de 20%. À 23h, il est estimé à 54% contre 32% en 2012. Mamadou Lamine Ba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Dakar, la capitale sénégalaise, où la mission d'observation de l'Union africaine dépêchée donc sur place, se dit impossible en ce moment de dire que si les problèmes d'organisation évoqués auront un impact sur les résultats des législatives. Et selon l'ex-présidente centrafricaine et chef de cette mission de l'UA, Catherine Samba-Panza, il y a des griefs qui ont été portés à l'attention des membres de l'équipe de la mission, mais la mission n'était pas en mesure, comme je le disais dimanche soir, d'évaluer l'ampleur exacte des problèmes et l'influence que cela peut avoir sur la régularité globale du vote.
Au Congo, Brazzaville, près d'un an et demi après sa réélection controversée, le président Denis Sassou Nguesso devrait de nouveau disposer d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale au terme du second tour des législatives hier dans le pays.
Un scrutin marqué par quelques incidents et le report du vote dans 9 circonscriptions de la région du Poule, région proche de Brazzaville, qui a replongé dans la violence depuis la réélection contestée de M. Sassou Nguesso. Et selon plusieurs témoins, des militaires auraient voté frauduleusement pour le compte du PCT, le parti au pouvoir. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours.
Cette semaine dans Droits et Libertés, nous rencontrons Jean-Claude Dossa, qui a fondé à Cotonou au Bénin un hebdomadaire qui porte sur les droits humains.
Nous parlons de ce qui est bien, le vote de la loi sur les droits des personnes handicapées. Nous en avons relayé, nous avons permis aux bénéficiaires de donner leurs impressions. Également, nous accordons beaucoup de place aux gens, donc à la promotion des droits de la femme, pour être plus précis. Et dans ce cadre, je pense qu'au Bénin, il y a un vrai problème.
Et puis, second thème, des femmes fortes prêtes à retrousser leurs manches en Afghanistan.
Then when we build it, it has two positive points.
Ici, nous pouvons montrer que ce que nous avons détruit nous-mêmes, nous pouvons aussi le reconstruire. La nouvelle génération a la force de corriger les erreurs du passé. Et puis, c'est notre héritage culturel. Nous devons le sauver.
It's better to rebuild it, I think.
Retrouvez le magazine Droits et Libertés le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel.
Deutsche Welle, le sport. Ali Farhat.
Et avec vous Ali, nous allons faire un tour complet de l'actualité sportive de ce week-end. Une actualité dominée, hein, bien sûr, par les 8e Jeux de la Francophonie.
Oui, dernière distribution de médailles à Abidjan, notamment en lutte africaine. Honneur aux dames avec l'or pour la Sénégalaise Naami Sambou dans la catégorie des moins de 45 kilos, aux dépens de la Tchadienne Josiane Danimbe Loubaïtar. L'Ivoirienne D, Caroline Yapi, elle repart avec le bronze. Chez les moins de 50 kilos, la Sénégalaise Binette Diatta n'a pu faire mieux que l'argent, tandis que l'Ivoirienne Tiemongo Soro remporte, elle, le bronze. Victoire de la Camerounaise Joseph Emilienne Essombe Tiako dans la catégorie des moins de 60 kilos face à la Sénégalaise Safiatou Goudiaby. La Burkinabé Josiane Nabi, elle, finit troisième. Chez les moins de 70 kilos cette fois, l'Ivoirienne Ami Youin bat la Guinéenne Fatoumate Yarié et repart avec l'or, tandis que la Sénégalaise Marie-Thérèse Manga repart avec le bronze. Enfin, chez les moins de 80 kilos, la Sénégalaise Anta Sambou s'impose en finale contre la Tchadienne Goda Samsia Gassida.
Oui, chez les hommes aussi, une belle moisson de médailles pour les athlètes africains, Ali.
Kossivi Tchassou, si vous étiez un lutteur, dans quelle catégorie vous seriez-vous? Est-ce que vous seriez dans la catégorie des moins de 66 kilos par hasard?
Oh non, plus de 66 kilos.
Bon, en tout cas, sachez que dans la catégorie des moins de 66 kilos, le Sénégalais Moussa Faye a remporté l'or en battant le Camerounais Roland Tambine Forsong, tandis que le Nigérien Mahamadou Alimiaou repart avec le bronze. Son compatriote Garba Murtala, lui, n'a obtenu que l'argent chez les moins de 76 kilos. Le bronze est allé au Sénégalais Oumar Diouane. En battant le Burkinabé Drissa Zone, le Sénégalais Cheikh Tidiane Niang s'impose dans la catégorie de moins de 86 kilos, tandis que le Nigérien Ibrahim Tassiou finit troisième. Dans la finale des moins de 100 kilos, c'est le Sénégalais Mouhamadou Mustapha Sen qui a pris le meilleur sur le Nigérien Kaka Yahaya. Et la médaille de bronze, elle, a échu au Burkinabé, Eloi Zerbo. Enfin, victoire de Mohamed Bousso dans la catégorie des moins de 120 kilos. Le Sénégalais qui a pris le meilleur sur le Burkinabé, Emmanuel Romaric Kawane.
Alors Ali, globalement, les athlètes sénégalais ont donné cette discipline de lutte, ont dominé cette discipline de lutte africaine.
Oui, tout à fait. C'est encore plus flagrant quand on voit les résultats des épreuves par équipe. Le Sénégal a tout simplement réalisé le double. Chez les dames, les Sénégalais se sont imposés 4-1 en finale face à la Côte d'Ivoire. Les hommes, eux, ont fait preuve de moins de pitié puisqu'ils se sont imposés 5-0 face au Burkina Faso.
Mais Ali, il faut noter que c'est vraiment des gens dodus, hein, les Sénégalais qui luttent, ils sont en forme.
Oui, c'est leur sport. Hein, c'est leur sport, hein.
Oui, ce week-end, on disputait aussi la fin des tournois dans les sports collectifs.
En basketball, un tournoi exclusivement féminin, c'est la France qui a été sacrée championne de ces Jeux. Grâce à leur victoire 54-50 sur la Fédération de Wallonie, les Sénégalaises finissent 3e. Les Maliennes, elles, se classent 5e suite à leur victoire 74-69 face à la Roumanie. Grâce à leur victoire 80-34 sur les Guinéennes, les Ivoiriennes terminent 7e, tandis que les Camerounaises, qui ont battu le Luxembourg 56-39, finissent à la 9e place. En football, qui était à contrario un tournoi exclusivement masculin, c'est le Maroc qui l'a emporté en battant la Côte d'Ivoire au tir au but 7-6. Le score était de 1 partout à l'issue des prolongations. Par ailleurs, c'est le Mali qui termine sur la dernière marche du podium grâce à une victoire 2-1 sur la République démocratique du Congo.
Alors Ali, les rideaux sont tombés hein, sur les 8e Jeux de la Francophonie. On connaît donc le classement des médailles. Allez.
Oui, c'est la France qui termine en tête avec 49 médailles, suivie du Maroc 42 et le Canada 36. Avec 27 médailles, dont 10 en or, le Sénégal se classe 4e, tandis que la Côte d'Ivoire finit 6e avec 6 médailles d'or sur les 19 récoltées au total. Le Cameroun, lui, est à la 7e place avec 21 médailles, mais seulement 5 en or. 5 médailles tout en or pour le Congo-Brazzaville, qui termine à la la 9e place de ces Jeux de la francophonie. Le Burkina Faso est juste derrière avec 3 médailles d'or sur les 10 remportées durant la compétition. Le Mali est 15e avec 8 médailles dont une en or. Le Niger juste derrière avec une médaille d'or également, tout comme le Bénin ou encore la République démocratique du Congo. Le Tchad compte 2 médailles d'argent, tout comme le Gabon et la Guinée. Et enfin, le Togo repart avec une médaille de bronze.
Je savais, Ali ne pouvait jamais terminer cela sans parler du Togo.
Il y a le Tchad et la Guinée qui ont aussi obtenu quand même. Hein.
Oui, 2 médailles d'argent et le Togo donc voilà. Avec une médaille de bronze. Les Jeux de la francophonie sont désormais terminés. Et les prochains Jeux auront lieu en 2021 et ce sera au Canada, dans la province du Nouveau-Brunswick.
Ali, vite pour terminer, le légendaire Mo Farah a encore repoussé la date de sa retraite.
Oui, le coureur britannique, quadruple champion olympique sur 5000 et 10 000 mètres, devait initialement arrêter après les Mondiaux de Londres qui se déroulent du 4 au 13 août prochain. Il a choisi dans un premier temps de participer au meeting de Birmingham qui aura lieu le 20 août, avant de repousser une nouvelle fois la date de son départ qui aura lieu après le 24 août, soit après le meeting de Zurich où il disputera la finale de la Ligue de Diamants. Mo Farah compte ainsi remporter le 5000 mètres cette année encore. Mais avant cela, il aura un objectif plus important, faire un nouveau doublé 5000-10 000 mètres au championnat du monde à Londres, donc après ceux de Moscou en 2013 et Pékin en 2015.
Merci beaucoup Ali Farad pour toutes ces informations sportives. Nos auditeurs vous retrouveront ce soir à 17h temps universel pour une nouvelle chronique sportive. Pour l'heure, il est 7h25 en temps universel.
À vous la parole.
C'est aujourd'hui la journée de la femme africaine, une journée qui suscite vos commentaires. Mireille Dron les a recueillis.
Femme africaine, honneur à toi. Aujourd'hui, les femmes africaines ont compris que le développement du continent et du monde entier est aussi leur affaire, observe Kofi de Kongoussi au Burkina Faso. J'invite nos mamans à plus de détermination, que les objectifs du développement durable fassent partie de leur projet. On veut les sentir plus à des grands postes de décision et cela doit passer par la scolarisation des jeunes filles, écrit-il. Il ne faut pas leur faire croire que la fille est un être à faible potentialité, mais un être fort, tout comme les hommes. Il faut donner les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes. En Afrique, les femmes sont en général respectées et respectables, observe Vive de Dakar, mais depuis qu'elles demandent la parité, les hommes ont un autre regard sur elles. Bref, elles sont les premières victimes de nos conflits et en cela, il faut leur rendre hommage. Mon plus grand souhait, c'est l'amélioration de leur état de santé, écrit Yves. Mais Mawu Lolo de Lomé fait partie de ceux qui ont du mal à accepter l'évolution de la femme africaine qui contribue pourtant au développement des pays. La femme africaine, c'est une femme qui sait comment on s'habille, respecte son mari, par exemple. Mais ces valeurs n'existent plus, selon lui. La femme africaine a copié la femme européenne, disant qu'elle veut l'émancipation. Un avis que partage Youssouf dans la région de Guéra, au Tchad. Mais Bibata Barry, première femme gouverneure et commissaire de police au Niger, estime que tradition et évolution de la femme ne sont pas incompatibles.
La femme africaine a fait beaucoup de progrès, mais nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. Nous devons de faire en sorte que vraiment la femme puisse trouver sa place au sein de la société, qu'elle soit considérée au même titre que l'homme, parce qu'elle a les mêmes droits et les mêmes obligations. Et nous devons en tout cas de faire en sorte que partout, les femmes ne souffrent plus. Même avant, au sein de la société africaine, les femmes étaient consultées au niveau de nos pouvoirs traditionnels.
Notez que notre journal de 17h, temps universel ce soir, sera consacré à la femme africaine, alors soyez à l'écoute.
Et à 7h28, temps universel, Kossi Vitiassou, le rappel des titres.
Oui, les regards sont tournés aujourd'hui vers la République démocratique du Congo où la Lucha, le mouvement citoyen pour la lutte pour le changement, a appelé les Congolais à manifester dans plusieurs villes du pays pour exiger l'organisation des élections fin 2007. Les Sénégalais, tout comme les Congolais de Brazzaville, sont dans l'attente des résultats de législatives d'hier dans leurs pays respectifs. Et aussi, la tension demeure vive au Venezuela au lendemain du vote de l'Assemblée constituante.
C'est la fin de cette première édition de nos informations sur la radio internationale allemande. Il est 7h et bientôt 29 minutes en temps universel. Nous nous retrouverons à 17h temps universel pour une nouvelle édition en français sur la Deutsche Welle. Mais avant de nous quitter, voici la pensée du jour. L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir. À très très bientôt.
D'après Bob.
Lucky.